Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire. Si vous nous rejoignez sur le 91 MHz, l'agglomération Montpellier-Rennes, ou bien le 103.1 sur l'agglomération nimoise, ou bien peut-être, si vous êtes au-delà de ces territoires, vous nous rejoignez sur le www.fmplus.org. Bien heureux de vous retrouver pour parler avec vous des méandres de l'amour, Eros et Agapé, livre qui est paru aux éditions Hervy et dont l'auteur est ici en face de moi, Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edon, c'est Dervy.
Dervy, qu'ai-je dit?
Vous avez dit Hervy.
Hervy, voilà. Dervy. Le dé était tombé.
Bonjour Edon, bonjour à tous.
Voilà, donc nous cheminons sur ces mots pour le dire, et dans les mots pour le dire, il y a surtout aussi les mots pour ne pas instrumentaliser l'autre, puisque c'est le chapitre que nous avons abordé depuis la semaine dernière, et donc nous allons clore ce chapitre aujourd'hui, ne pas instrumentaliser l'autre. Alors, je pensais à une citation, si vous me permettez Michel, de Jean Simard qui dit « Nous passons notre vie à désirer surtout ce qui nous fuit, et qui nous paraît désirable que pour cette seule raison. » Ça me fait penser un peu à Don Juan de Molière, hein, qui dit en fait, ce qui rend la femme indésirable, c'est pas tant la conquérir, mais c'est le temps de la conquérir, mais pas une fois qu'elle est conquise, à quoi bon. C'est tout son plaisir, tout son désir, il est dans cette résistance, donc l'autre est devenu un instrument de conquête, et non pas un instrument d'amour.
Absolument. Et on voit d'ailleurs cette idée dans la profession de foi, qu'il énonce face à Scannarelle au début de la pièce de Molière, hein, au tout début, dans l'acte 1, hein, il dit « Tout le beau de la cante, tout le beau de la passion est fini, eh bien, cela n'a plus d'intérêt. Hein. Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. » Et lorsqu'on en est maître une fois, hein, de la femme que l'on poursuit, eh bien alors, on peut courir après une autre. Tout le beau de la passion est fini. Hein. Mais déjà, Lucrèce l'avait dit dans le De Natura Rerum, hein, quand ce que nous désirons est absent, alors ce but nous paraît prévaloir sur tout le reste. Sed dum habest quod avemus, lorsque ce que nous désirons est absent, quetera praestare omnia, oui des tours, hein, voilà, donc il semble que ce but qui se dérobe est le plus important, mais aussitôt qu'on l'obtient, effectivement, on est déçu et on est toujours dans cet hérétisme du désir, hein, cette démangeaison du désir. Alors, ne pas instrumentaliser l'autre, effectivement, c'est ne pas en faire un support à projection, à fantasme et un prétexte, justement, à se faire, comme on dit trivialement, du cinéma. Hein. Donc, pour cela, il faut être autarcique, indépendant et savoir assumer sa propre solitude, ne pas chercher dans l'autre une espèce de prothèse qui nous protège, en quelque sorte, contre l'obsession de la solitude et son angoisse, et finalement il nous faut retrouver au fond de nous-mêmes, en étant centré, l'essentiel, à partir de quoi une bonne relation avec l'autre sera possible. Donc j'avais dit en terminant la précédente émission que ceux qui prétendent que la rencontre de l'autre nous décentre de nous-mêmes me semblent avoir une vision très étroite, très limitée. En réalité, il faut d'abord être centré et ensuite la rencontre de l'autre sera possible. Alors on pourrait approfondir les modalités de ce centrage, de cette réunion à soi, et on y verrait que pour chacun de nous, la seule question qui vaille, c'est celle qui est formulée par Nietzsche, « Deviens ce que tu es ». Alors qu'est-ce que cela veut dire, ça « Deviens ce que tu es ». Dépouille-toi de cette personnalité d'emprunt, de tous ces oripeaux dont la société te revêt et qui cachent ton moi profond. Ne t'identifie pas avec ces masques, tu es tout autre, toi-même. En fait, il y a au fond de toi un être essentiel, celui que tu as connu dans ton enfance, par exemple, qui est véritablement toi et qui ensuite t'a été dissimulé, qui a été recouvert par le brouillard, je dirais, de la vie sociale. Mais cet être profond n'a pas disparu et tu peux le retrouver, hein, par la méditation solitaire. Vous voyez, Redouane, je vais prendre une comparaison. Prenez le soleil, même lorsqu'il est caché derrière les nuages, on sait qu'il y demeure toujours derrière les nuages, puisqu'on l'a déjà vu, hein. Donc le soleil ne cesse pas d'exister. Ou bien un deuxième exemple que je prends, que j'emprunte à Proust, hein, comme ces cloches des églises que couvrent si bien les bruits de la ville dans la journée, qu'on pourrait les croire disparues, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. En réalité, les vieux souvenirs n'ont jamais disparu. Ils sont enfouis en nous, hein. Et il ne s'agit pour nous que de les exhumer, que de les faire, en quelque sorte, ressurgir à la conscience. Alors, vous savez que c'est Georges Gurdjieff qui opposait en chaque individu son essence à son caractère. L'essence, c'est ce que l'individu est réellement au fond de lui. Et le caractère, c'est la personnalité sociale, ce que Jung appelle la persona, le masque que nous portons sur notre figure. Mais nous ne devons pas nous identifier à ce masque. Cette essence, c'est naturellement ce que l'Évangile selon Thomas, auquel nous avons consacré l'année passée une série d'émissions, appelle le modèle. Voici par exemple ce que dit le Logion 84 de l'Évangile selon Thomas. Jésus a dit, les jours où vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos modèles, qui au commencement étaient en vous, qui ne meurent ni ne se manifestent, qu'est-ce que vous supporterez? Vous voyez? Donc, la contemplation de soi, il ne faut pas l'avoir du tout comme quelque chose de narcissique, du type « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir », par exemple. Hein. Au contraire, la contemplation de soi, c'est l'accès au modèle. Elle est la découverte du vrai moi, du moi archétypal, qui réside depuis l'origine au fond de soi. Et ce fameux modèle dont parle l'Évangile selon Thomas, c'est notre icône intérieure. Et d'ailleurs, le texte copte de l'Évangile selon Thomas, pour dire le modèle, reprend le mot grec même d'icône. Hein, vous voyez ? Alors l'icône, bien sûr, ce n'est pas une petite image sur un écran d'ordinateur, comme le croient nos internautes d'aujourd'hui. Hein. Non, l'icône, icône, c'est le modèle, c'est l'image instituante. Hein, alors qu'il ne faut pas la confondre, cette image instituante, avec l'image qui renvoie, elle, au latin imitari, qui veut dire imiter. Alors l'image nous flatte avec complaisance, hein, mais l'icône ne nous montre pas ce que nous sommes dans la vie ordinaire, ça c'est le rôle de l'image, mais ce que nous pouvons être si nous rencontrons notre être profond. L'icône, elle est normative, elle nous juge et nous rappelle à nous-mêmes, en nous répétant sans cesse, si du moins nous savons l'entendre, mais qu'es-tu devenu maintenant? Vous voyez, miroir instituant signifie quelque chose qui est normatif, qui nous montre ce que nous devons être et qui nous fait mesurer la différence ontologique qu'il y a entre notre apparence et puis le moi profond. Alors, si on scrute bien cette icône intérieure, on voit qu'elle a rapport à l'enfant qu'on a été, que l'on a laissé au bord de la route, mais qui nous appelle toujours. Alors là, je vais vous lire un petit texte de Jean Tardieu, qui s'appelle « L'enfant laissé au bord de la route », et qui se trouve dans « La part de l'ombre », en poésie Gallimard, ce qui est sorti en 1972. Ce texte figure aussi dans mon ouvrage « La source intérieure », dont la troisième édition, revue et augmentée, vient de sortir chez Golias. Hein. Alors je vous le lis. « Voilà plus de 30 ans que j'attends de vivre. Ai-je vécu ? Sans doute quelqu'un a vécu. Mais ailleurs, quelqu'un d'autre est resté, un petit d'autrefois que je connais bien. Celui-là depuis toujours est demeuré, celui-là toujours à la même place demeure. Il attend, il m'attend, et à travers la distance énorme, il me fait des signes désespérés. Oui, c'est bien celui-là qui s'étonne là-bas, qui appelle, crie, gémit, car on ne l'a pas amené, on l'a trahi. Il croyait que tout allait venir à lui et tout s'est éloigné de lui. Tandis que moi, le moi qui suis parti sur la route, le quelqu'un qui va toujours là où je vais, c'est moi qui ai tout emporté, même l'image du solitaire enfant resté assis, désespéré sur une borne de la route. En effet, j'ai beaucoup, beaucoup marché, et parce qu'en marchant j'ai tout arraché des bords du chemin, parce que j'avançais sans cesse, ah, comme je me suis cru riche! Pourtant je ne possède rien qui vaille, les fils d'encens du télégraphe, l'écho de mes pas, l'odeur des cuisines d'auberge, l'aboiement des chiens la nuit derrière les grandes portes fermées. Comme je voudrais retourner vers l'enfant. Il savait tout d'avance, et c'est bien pour cela qu'il pleurait. Donc j'ai commenté ce texte dans le dernier chapitre, je le répète, de ma source intérieure, qui est le chapitre finalement le plus important. Il faut revenir à l'enfant que l'on a été. Vous savez, Redouane, bien des fois je vous ai dit que j'aimais bien renverser les expressions, l'élocution courante et les proverbes. On nous dit, on retombe en enfance. Moi je pense que c'est le contraire. En fait, on ne tombe pas en enfance, on y remonte, vous voyez. Dans la vie finalement, on a le choix, ou bien on est comme un bois flotté hein, qui va à volo, au fil de l'eau, emporté par l'eau, ou bien on est un saumon vivant. Vous savez, Redouane, que les saumons reviennent pour pondre à l'endroit où ils sont nés. Vous voyez, ils abandonnent la mer où ils ont vécu, ils reviennent à l'endroit où ils sont nés, ils se reproduisent et hélas, ils meurent tout de suite après, vous voyez. Mais c'est important, ça. Je pense qu'il vaut mieux être saumon vivant que bois flotté, hein, allant au fil de l'eau. Donc il faut s'intéresser à soi, il faut s'intéresser à l'enfant intérieur, à ce que toutes les spiritualités du monde appellent le puer aeternus, en latin, enfant éternel, hein. Et cet enfant nous habite et nous dirige. Je pense à celui que porte sur son épaule Saint Christophe. C'est une admirable icône du salut procuré par l'enfant. Alors bien sûr, littéralement, l'adulte porte un enfant. Hein, Christophoros, ça veut dire qu'il porte le Christ. Mais en réalité, je pense que l'enfant et l'adulte, ou le vieillard, puisque Saint Christophe est ordinairement une personne âgée, c'est la même personne, hein, et l'enfant, c'est l'archétype qui figure dans l'âme, au fond, dans l'inconscient du vieillard, hein, et le vieillard qui porte le Christ est en réalité guidé par lui. Cet enfant est celui qu'il a été lui-même autrefois. Et alors, deviens ce que tu es, deviens alors, de Nietzsche, deviens ce que tu étais, vous voyez. Donc, je répète que quand je parle d'icône, je ne parle pas de l'image informatique, je ne parle pas non plus du modèle, si vous voulez, dont se sert le orthodoxe pour figurer les figures, les images sacrées, hein, mais j'entends par icône, c'est ce modèle qui est en nous, enfoui, et qu'il s'agit de ressusciter. Alors, pour illustrer cela, nous allons écouter une très belle chanson de Serge Lama, qui s'appelle « Mon enfance m'appelle » et qui est tout à fait gnostique d'inspiration.
Mon enfance m'appelle sur des plages de sable. Mon enfance m'appelle sur des plages dorées. Sur elles sont venus s'inscrire impitoyables de nombreuses années. Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quelle neige est déjà tombée dans mes cheveux? Les hommes ne sont-ils nés que pour devenir vieux? Mon enfance disparue, quel était le nom de ma rue? Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quelle fleur a courbé sa tige sous mes pas, que je sois tombé tout à coup aussi bas. Mon enfance, prends ma main, puisque tu es sur mon chemin. Mon enfance m'appelle sur des plages de sable. Mon enfance m'appelle sur des plages dorées. Sur elles sont venus s'inscrire impitoyables de nombreuses années. Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quel espoir de départ vers des lieux inconnus, pour oublier plus tard qui je suis devenu. Mon enfance revenue, dis-moi, qui suis-je devenu? Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quelle éternelle nuit se lève dans mes yeux? On récolte l'ennui quand on a ce qu'on veut. Oh mon enfance, quelle envie d'aller chez toi finir ma vie. Mon enfance m'appelle sur des plages de sable. Mon enfance m'appelle sur des plages dorées. Sur elles sont venus s'inscrire impitoyables de nombreuses années.
Toujours à l'écoute du réseau FM+, le 91 MHz sur l'agglomération Montpellier-Rennes, le 103.1 Radio Alliance+. Méandre de l'amour, Eros et Agapé, toujours avec Michel Théron, donc ne pas instrumentaliser l'autre. C'était la première partie qu'on a abordée de ce chapitre. Et effectivement, une sorte de miroir à ce que dit...
Voilà, c'est un miroir, l'enfance est un miroir, mais un miroir qui est souvent accusateur. Hein. Il nous dit qu'est-ce que tu es devenu? Et qu'ai-je fait? Qui suis-je devenu? Et finalement, l'enfant nous précède en quelque sorte pour aller au paradis, hein, peut-être, pourquoi pas. Il nous prendra la main, prends ma main et guide-moi vers le paradis. Alors là, je voudrais prévenir un contresens ou une confusion. Il ne faut pas confondre cet enfant dont je parle et dont parle Serge Lama dans un texte qui, je le répète, est éminemment gnostique d'inspiration. On comprend tout à fait ce qu'est la gnose lorsqu'on écoute cette chanson. Il ne faut pas confondre cet enfant spirituel salvateur qui nous permet de nous retrouver pour avancer avec dynamisme dans la vie au moyen d'une régression choisie et féconde. Il ne faut pas le confondre avec l'enfant infantile qui nous tire en arrière à une régression qui serait subie et stérile. Il ne faut pas oublier le destin de la femme de Lot qui fut changée en statue de sel pour s'être retournée sur Sodome en flammes. Et l'Évangile distingue bien ces deux enfants. Au premier enfant, l'enfant spirituel appartient le royaume. Donc soyez comme des petits-enfants et vous entrerez dans le royaume, etc. Mais le second enfant, l'enfant infantile, lui, il est condamné. Vous voyez ce qu'on lit dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, verset 62, « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. » Vous voyez. Et l'évangéliste dit aussi, et fait mettre dans la boue de Jésus la phrase suivante, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Donc, chapitre Luc, chapitre 17, verset 32, vous voyez. Donc, c'est mauvais de se retourner de façon infantile, si vous voulez. Mais autant l'enfant spirituel nous sauve, autant l'enfant infantile nous fait stagner. Mais beaucoup ignorent dans la vie la présence de l'enfant spirituel en eux, et ils restent des enfants infantiles toute leur vie durant. Ils n'ouvrent jamais les yeux, on peut dire qu'ils meurent les yeux fermés. Alors, Edouard, vous pourriez me poser la question, est-ce que nous ne dévions pas de notre sujet, hein? Nous parlions de l'amour.
Voilà. De l'instrumentalisation
voilà,
de l'autre.
Voilà. Alors, donc, pas tellement instrumentaliser l'autre, ça veut dire ne pas se suffire à soi-même, donc ne pas se centrer et donc ne pas retrouver cet enfant intérieur. Hein. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi s'intéresser autant dans un livre sur l'amour à cet enfant intérieur que chacun porte en soi. Eh bien, je pense que c'est à ce prix seulement, dans le rapport à autrui et surtout dans la vie amoureuse, qu'on peut montrer à l'autre un vrai visage, un visage sincère et profond, et non point le visage habituel qui est masqué par la fameuse persona, je le répète, en prenant ce mot à Jung. Persona, c'est le masque de l'acteur, en latin. Et c'est la source de la personnalité sociale. Mais dans la vie sociale, nous portons tous des masques et nous sommes des hypocrites. Alors à partir du grec, hypocrites, ça veut dire acteur de théâtre, vous voyez. Donc, avec l'enfant seul, on peut justement arracher ce masque. et ainsi avoir avec l'autre, le partenaire en amour, un vrai dialogue qui ne serait pas parasité par les convenances ou le désir de séduction. Rencontrant l'autre, alors ce sera enfin une rencontre d'âme à âme ou de cœur à cœur. Car il n'y a rien de plus sincère qu'un enfant. Alors, bien sûr, soyons prudents, quand l'enfant n'est pas encore perverti, quand il n'est pas encore devenu hypocrite et dissimulateur, c'est-à-dire, selon l'expression de Sartre dans Les Mots, hein, ce monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. Mais quand l'enfant n'a pas cette perversion dont les éducateurs justement le chargent, en quelque sorte, hein, il a, je dirais, un regard simple et pur, hein, qui perce à jour la comédie des grandes personnes. Il est donc le plus intelligent, si l'intelligence est la destruction de cette comédie. Vous voyez, on ne peut pas tromper un enfant. S'il s'amuse souvent, l'enfant ne s'abuse jamais. Il a ce fameux regard simple dont l'Évangile fait l'éloge. « Que ton œil soit simple », lit-on dans le texte évangélique. Hein. Simple en grec « aplous », hein, c'est-à-dire qui n'est pas perverti, qui n'est pas diabolique, c'est-à-dire qui n'est pas partagé, diabalein, divisé. Hein. Donc le regard est simple, limpide, clair, hein, il n'est pas enténébré par le démon ou par le diabolique, et à ce moment-là, on constate que la comédie sociale tout entière est percée à jour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Edouane, mais un enfant, je répète, quand il n'est pas perverti, un enfant voit nettement tout ce qui se passe autour de lui. Ses parents, par exemple, quand il voit les disputes, il voit les malentendus, il voit les imperfections du couple, etc. Par exemple, les parents voudraient que l'enfant réussisse bien à l'école, hein, mais aussi qu'il soit un peu aveugle à la maison, qu'il ne voit pas certaines choses. C'est absurde, parce que si l'enfant est intelligent à l'école, il sera aussi intelligent à la maison. Vous pensez pas, Redouane?
Et surtout, il y a la question de le ressenti. Je crois que les enfants ressentent une sorte de sixième sens, l'ambiance à la fois comportementale des parents, mais aussi l'ambiance dans laquelle ils sont. C'est ce qui fait que peut-être, parfois, l'enfant devient pervers. C'est-à-dire que dans une cour d'école, on ressent quel est le maillon faible de l'équipe. Voilà, c'est vrai qu'à la fois l'enfant a d'une grande sensibilité, mais c'est aussi une éponge. Il s'imprègne de son environnement.
Tout à fait. Mais il n'a pas encore la persona. Hein. Les adultes portent un masque. Hein. Nous parlons toujours avec les autres, avec ce masque sur notre figure. On porte le masque du professeur, du médecin, de l'avocat, etc. On porte toujours un masque. Hein. Bon, les seules personnes qui ne portent pas le masque, ce sont les enfants, les petits-enfants, qui ne le portent pas encore, hein, et les vieillards qui ne le portent plus. C'est pour ça que les enfants et les vieillards souvent s'entendent très bien, parce qu'ils communient dans un parfait refus, un commun refus de la vie sociale, si vous voulez, de l'hypocrisie sociale.
C'est très typique dans la culture kanak, les vieux, comme on dit, ont le droit de tout faire. Quand on est vieux, c'est l'âge où on peut se permettre toutes les bêtises du monde.
Ah ben oui. Alors ça j'aime bien cet exemple qui vient de vos voyages, Redouane. Donc il est comme un enfant en quelque sorte.
Comme un enfant. Ouais.
Comme un enfant. Voilà.
Comme un enfant.
Voilà. Moi je pense que si les vieillards et les enfants s'entendent si bien, c'est parce que ils ne portent pas le masque. Hein. Les hommes ne l'ont pas encore porté et les autres l'ont abandonné. Et alors, voyez, pour que se fasse la rencontre de l'autre sous l'égide et la protection de cet enfant intérieur que chacun porte en soi et qui est en quelque sorte l'ange gardien, il faut d'abord, évidemment, s'intéresser à l'être profond que l'on est vraiment, dont avoir opéré volontairement une démarche d'introversion. Et tout ce processus d'approche préalable à la rencontre n'est pas naturellement donné, surtout dans la société que nous connaissons. Et par voie de conséquence, je suis fondé à dire que l'amour véritable s'apprend, hein, comme le dit bien Eric Fromm dans un livre essentiel qui s'appelle « L'art d'aimer ». Vous en trouverez la traduction française chez Desclés de Beauvert, paru en 2005. Hein. L'art d'aimer n'a rien à voir avec l'art d'aimer d'Ovide. Hein. Eric Fromm est un psychanalyste qui nous dit que finalement, nous devons nous éveiller à l'amour par la compréhension. Ah, vous voyez, là, je vais un peu peut-être vous envoyer une pique. Redouane, Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens que la connaissance passera et que l'amour demeure. Moi, je pense que la connaissance est nécessaire à l'amour, vous voyez. Hein, la connaissance, gnosis, hein, parce que il faut savoir, justement, les modalités de l'approche de l'autre, les conditions d'une bonne rencontre. Et donc, Paul, c'est un gnosimaque, c'est-à-dire quelqu'un qui est ennemi de la connaissance, de la gnosis. Hein, c'est 1 Corinthiens 13, vous voyez. Moi, je crois que il faut garder l'amour, bien sûr, mais il ne faut pas condamner autant la connaissance. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est qu'avec l'âge, la connaissance passe, mais les sentiments restent. Ah, quand il y a des sentiments, c'est ce que je trouve de très beau chez certains couples, où on sent qu'il y a un amour vraiment extraordinaire. Et voilà, ça me marque. Mais la connaissance, on en a besoin pour grandir. Ça, intellectuellement, et dans la rencontre aussi avec les autres, parce que c'est aussi la connaissance, c'est s'initier à la sagesse. Si on n'a pas la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, on ne peut pas entrer en dialogue et dans la découverte de l'autre.
Tout à fait. Donc, je crois que l'amour doit être éclairé quand même par une connaissance, en dépit de la condamnation paulinienne de la gnosis, de la connaissance dans le passage que j'ai cité. Et alors je dirais que si les préjugés, la doxa, c'est l'opinion publique, le catéchisme collectif, nous vante la socialisation à outrance, nous décentrer, dit-on, hein, alors que c'est absurde pour moi, pour aller vers l'autre, hein, on nous vante l'extraversion, et de même que l'abnégation ou l'oubli de soi qui est inventé, l'amour supporte tout, etc., dit Paul toujours dans 1 Corinthiens 13, hein, un peu de réflexion nous montre non seulement les insuffisances de tous ces choix, mais même peut-être leurs effets pervers. Nous parlerons dans une prochaine émission des dangers qu'il y a dans l'agapé, c'est l'oubli de soi et le sacrifice de soi, si vous voulez. Les dangers d'Eros, je l'ai dit bien des fois, c'est la méconnaissance de l'autre, hein, et le danger d'agapé, c'est le fait de faire mépris de soi-même. Alors j'ai parlé de l'ange gardien qui veille sur nous, hein, et bien nous allons, pour illustrer cette réflexion, écouter une chanson de Salvatore Adamo, La part de l'ange.